Bonjour, bonjour et bienvenue sur Fréquence Diagonale. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale puisqu'on va au soleil, toujours en France, mais au soleil dans les îles. On va rejoindre le président de la Ligue de Martinique, qui n'est autre que Gilles Suez Panama. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane.
Alors Gilles, donc tu es président de cette Ligue de Martinique, hein, du jeu d'échecs. Alors évidemment, ça nous fait rêver ici en métropole, la Martinique. La Guadeloupe, les îles comme ça qui sont au soleil, plantées dans la mer comme ça, un cadre idyllique. Alors, raconte-nous un peu, toi déjà, avant qu'on rentre sur le détail de cette ligue, peut-être ton parcours de joueur d'échecs. Hein, comment tu es venu aux échecs et comment tu es arrivé à diriger comme ça, à prendre un peu les rênes de cette ligue de la Martinique. Quelle est ton histoire de joueur?
Bon, alors, ça a commencé il y a très longtemps. En 1987, pour moi, j'ai découvert les échecs à l'école, enfin, au collège. J'avais 14 ans. Et c'est l'ancien président, enfin, l'un des premiers présidents de la Ligue d'échecs de Martinique, Patrice Marie-Madeleine, qui m'a initié. Et en fait, cette approche des échecs, ce cours d'échecs au collège, c'était un peu comme les autres clubs qui avaient, voilà, un club théâtre, musique, danse, etc. Et moi, j'étais un peu porté sur tout ce qui est mathématiques et scientifiques. Donc, lorsqu'on m'a proposé de jouer à l'échec, j'ai tout de suite dit oui. Mais je me prenais une petite anecdote à propos de ça. Donc, j'ai assez vite adhéré au jeu. Donc, ça a duré 3 mois. Et à la fin de ce premier trimestre, donc, il y a un petit tournoi de fin de session, disons. Donc, le tournoi de Noël. Et donc, le tournoi organisé, bon, je m'en sors pas trop mal, pas brillant, mais bon, pour un point débutant, ça allait. Donc, je crois que je suis sorti 10e, et le joueur est arrivé à l'ESR, du 1er, 2e, 3e, etc. Et il arrive, comment j'étais 9e, pardon. Il arrive 8e, donc je me prépare, et j'entends, et 8e et 10e, c'est une même fille. Et du coup, moi, j'ai rien eu, j'ai pas compris pourquoi. Et donc, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire de récompenser les filles? Alors que, enfin, au lieu de moi, enfin, j'ai pas compris, parce que j'étais avant elle dans le palmarès, et on m'explique que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles aux échecs, donc on préfère, on donne aussi, on essaie de les encourager. Mais du coup, moi, j'ai pas eu ma récompense, et c'était ma première déception du jeu d'échecs. C'est là que j'apprends que c'est un jeu où le sexe peut avoir une influence, alors que moi, je pensais que c'était un sport intellectuel, donc il n'y a pas de différence entre filles et garçons. Du coup, ma première expérience de l'échec, bon, j'ai aimé le jeu, mais première déception de la compétition, ça m'a un peu refroidi. Donc, j'avais décidé d'arrêter les échecs, alors que j'aimais bien au départ. Et puis, un peu plus tard, donc, mois après, j'entends des copains qui ont joué avec moi à l'école qui me disent qu'ils continuent à jouer, eux, parce qu'il y a le club d'échecs dans la commune. Donc, du coup, je décide d'y retourner, enfin, d'y aller aussi, parce que c'est dans ma commune, donc pourquoi pas, parce qu'il y a des quotas, donc j'ai décidé d'aller pour les quotas. Et puis, je recommence avec le jeu, les combinaisons, tout ce qu'on y apprend et tout ça. Donc, le petit côté intellectuel, donc ça me plaît. Et pareil, à la fin juin à peu près, on fait un tournoi interne, on fait un tournoi de bilan. Ça se passe bien, je sors premier des écoles. Par contre, il faut départager les écoles. On a le même nombre de points, enfin, il y avait un calcul à l'époque, j'en savais rien. Et on me dit que je suis finalement deuxième au départage. Pourquoi? Parce que le premier, il est plus jeune que moi de 9 jours. Donc, deuxième déception, puisque je comprends pas, enfin, je pensais que c'était encore une fois lié au cerveau et tout ça. On me dit non, là c'est une question d'âge, etc.
Disons
vraiment que ces petits traumatismes-là, enfin traumatisme, c'est vraiment, mais disons que chaque fois il y a eu ça qui m'ont dit d'arrêter les échecs, etc. Bon, je raconte tout ça parce que j'utilise ça aussi pour maintenant, parce que je suis aussi entraîneur, enfin je suis aussi comme dans le club. Et donc je raconte ces histoires parce qu'il y a plein qui sont déçus par leur première compétition, etc. Donc, ça reste toujours, puisque je rencontre ça chaque année, chaque fois qu'on a le début des échecs. C'est une histoire que j'aime bien raconter pour dire qu'il faut nuancer, puis il faut prendre sur soi et avancer. Donc ça, c'était les deux premières compétitions que j'ai eues. Donc j'ai eu une compétition à l'école, compétition en interne. Et ensuite, la troisième compétition, donc je suis allé au club, mais la compétition, c'était mon premier Open, donc du club. Donc là, j'affronte des joueurs extérieurs au club, donc des grands, avec des points élevés, je sais, parce que c'était à l'époque, donc des points élevés et tout ça. Donc il y avait 7 rondes, je crois, donc je suis motivé. Donc première ronde, je joue une partie que j'avais vue dans un zone, d'ailleurs, que j'avais gagné, qu'on m'avait offert, donc on va passer deuxième, finalement, on m'avait récompensé quand même. Et je joue une défense à l'équipe, je crois. Et donc, celui que j'affronte, le senior, il est content, il dit, tiens, c'est bien, la jeunesse progresse, la jeunesse joue aux échecs et tout. Bon, je perds la partie, deuxième partie, je perds, troisième partie, je perds, mais je suis toujours motivé à chaque fois. Et puis, à la cinquième partie, je rencontre encore un senior et je perds, et là, je me dis, mais c'est pas normal, tous les autres jeunes du club se rencontrent entre eux, donc ils peuvent gagner des points, et moi, je rencontre que des seniors. Mais bon, je prends sur moi. Et finalement, à la sixième partie, je rencontre un jeune aussi, que je gagne, puisque j'avais gagné le tournoi interne, donc je savais que je pouvais le gagner, je le gagne, donc c'était mon seul point de tournoi. Et au final, je finis 25e sur 26. Et le 26e étant absent, parce que j'ai appris qu'il y avait des sports de forfait, etc. Alors, j'étais un peu déçu. En plus, ils ont mis ça sur la presse locale, le France Anti. Donc 25e sur 26, donc bon, ça fait pas plaisir à voir, surtout moi qui était assez bon à l'école, donc je me tiens à voir, mais en première place. Mais le résultat de tout ça, c'est que, d'accord, j'ai pas eu cette place-là, j'ai pas eu une bonne place, mais mon premier classement élu après ça, c'était 1560. J'ai eu le meilleur classement un meilleur classement que tous les autres jeunes du club. Et finalement, j'ai appris de ça que même si on prend les coups, même si on souffre à un moment, on est quand même récompensé. Donc voilà, ces trois petites histoires-là qui ont fait que j'ai finalement adhéré au jeu et je suis resté, j'ai appris à être combatif, je pense. Ces trois petites histoires-là, je les utilise souvent parce que je les rencontre à chaque fois que quelqu'un ou un jeune arrive et il fait sa première compétition. Donc ça nous aide à les encourager puisque je comprends ce qu'ils disent. Et puis, je crois que c'est ça qui explique mon entrée, qui raconte mon entrée dans le jeu d'échecs et dans le jeu de compétition.
Oui, qui est un peu inhabituel d'ailleurs, parce que tu racontes une histoire où finalement, ce sont des échecs, c'est bien le cas d'ailleurs, de jouer aux échecs, mais avec des échecs successifs, hein, tu réussis pas, mais tu as, à chaque fois tu reviens, tu as la volonté de revenir, et à force de persévérance, tu finis par avoir du succès. Alors que souvent, peut-être les plus jeunes vont plutôt vers les activités où ils ont du succès tout de suite.
Voilà, c'est ça, c'est bon ça. C'est vrai que je dis, en fait, bon, quand moi je vois plein de personnes commencer, je suis moins jeune, j'arrive à rencontrer cette petite histoire, à nuancer pour qu'ils ne l'abandonnent pas. Et puis même, il y a des parents qui disent, voilà, par exemple, il va pas gagner de médaille, il n'a rien gagné, donc je l'enlève des échecs et je le fais arrêter parce qu'il ne va pas supporter. Je leur explique qu'au contraire, c'est peut-être ça qui va venir apprendre à perdre là. Apprendre à gérer un échec là, à cet âge-là, une activité qui en fait n'est pas un jeu, plutôt que de leur dire, de les encourager à arrêter alors qu'ils vont reporter cet échec ou cette non-gestion de l'échec sur autre chose. Donc autant peut-être les accompagner en leur donnant cet outil en plus pour pouvoir gérer tout ça. Quoi.
D'accord.
Donc c'est comment j'ai commencé. Donc comment je suis arrivé au club, passer l'initiation au niveau du collège, au niveau du club. Donc après, j'ai commencé au niveau du club, commencé à aller. En fait, on prenait des cours, c'était des exercices, on avait des ouvertures, des choses comme ça. Et puis, c'est surtout entre les jeunes, on apprenait des choses à la rigueur. Par exemple, il y a un jeune qui l'a battu sur une partie, qui l'a pris du tablier. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, où tu as pris ça? Il m'a dit, oui, j'ai acheté un livre qui s'appelle Le Guide Marabout des échecs. Ça, c'était le premier livre. Et ben, j'ai dit, bon, ben, je veux le même. Donc, j'ai acheté le même. Et chaque semaine, moi, je bossais une heure particulière. Et puis, le samedi, parce que le cours, c'était le samedi. Le samedi, je lui montrais ce que j'avais appris. Et, voilà. Et c'est comme ça qu'on progressait. Et d'ailleurs, c'était mon deuxième livre d'échecs. Le premier que j'avais acheté, mais mon deuxième livre d'échecs.
D'accord. Et là, à ce moment-là, tu es déjà en Martinique ou tu es ailleurs?
Ah, je suis toujours en Martinique. J'ai jamais quitté la Martinique. J'ai appris en Martinique et j'ai joué tout le temps en Martinique.
D'accord.
Et d'ailleurs, je vais expliquer un peu. Parce que bon, après, je suis allé jouer au. Ça, là, j'ai été champion cadet junior, donc j'avais 17-18 ans à peu près. Ensuite, je suis allé faire mes études en Guadeloupe. J'ai eu mon bac, je suis allé faire un bac de maths en Guadeloupe. Au niveau de la Ligue de Guadeloupe, il y avait aussi de l'activité, toujours licencié au club de Robert, je faisais le tournoi, je participais au tournoi qu'il y avait là-bas. J'ai même été vice-champion de Guadeloupe en 1996. D'ailleurs, il y avait, à ce tournoi, je crois qu'il y avait Chess Tiger, donc c'est le logiciel, enfin le concepteur Théron, je crois, qui était en train de tester, de mettre au point son logiciel. Donc ça fonctionnait, il n'y avait pas encore d'interface, rien du tout. Mais il avait participé à ce championnat 96, et je crois que c'est lui qui était officiellement champion de Guadeloupe, le logiciel. Et donc on était là à cette époque. Et voilà. Donc ensuite, là c'est en 96. Alors c'est en 96 aussi, donc ma maîtrise, que j'ai découvert le monsieur qui a fait le tournoi en métropole. Donc notamment on allait faire un billet d'avion. C'était pour le. Je pouvais l'utiliser pour le festival des jeux. Je crois que c'était à Cannes. J'avais des amis qui habitaient à Nice qui m'ont dit qu'ils pouvaient m'y emmener. Pour m'emmener à Nice, c'est qu'à Nice, c'est pas loin, d'ailleurs je le remercie, c'est la famille du Carélie, si m'entendent. Donc il m'emmène tous les jours à Cannes, et c'est là, c'est le premier tournoi en métropole que j'ai fait, c'est là que j'ai découvert les gros tournois, les très forts, les deux, et tout ça. Et après, j'ai enchaîné avec plein de tournois en France, moi ça je vais en parler plus tard, mais c'est ces tournois-là qui m'ont permis de prendre goût, de voir qu'il y en avait d'autres, et d'essayer après d'essayer de suivre le parcours de ceux qui sont plus forts, quoi.
D'accord.
Mais au niveau de l'école, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc même si on a organisé des stages, on a fait venir des grands maîtres, des choses comme ça, mais on n'avait pas beaucoup de moyens, et par exemple, au niveau des livres, dès que j'envoyais un en librairie, j'en achetais. Ce qui fait que maintenant, j'ai à peu près 300 livres d'échecs.
Ah oui.
C'est un peu comme ça que j'ai appris les échecs, grâce au livre. Parce que l'entraîneur qu'on avait, il m'évitait surtout. Moi, sur place, vu qu'on n'avait pas de maître et de grand maître, donc j'ai surtout appris avec tous les livres que j'ai pu acheter et que je continue à acheter d'ailleurs. Même si je dis à chaque fois que c'est le dernier, mais j'en achète à chaque fois. Donc voilà.
D'accord.
À peu près sur mon parcours, avant 98, ou 1998, donc c'est là que j'ai fait mon premier. Donc je suis sorti champion de Martinique pour la première fois. Et la Ligue à l'époque payait les billets d'avion pour les trois premiers du championnat de Martinique pour participer au championnat de France toute catégorie. Donc mon premier championnat de France c'était à Méribel, en 98.
D'accord.
Et depuis cette année, je fais tout. Jusqu'à cette année, j'ai fait tous les championnats de France en août.
En août, donc cette année tu seras aussi à Nîmes alors.
Ce sera à Nîmes, voilà.
D'accord.
Donc, je suis sorti troisième du championnat de cette année, donc j'irai à Nîmes. Représenter la Martinique.
Il y en aura d'autres. Il y aura d'autres joueurs de Martinique aussi, ce championnat.
Oui, alors là, donc je suis qualifié par les championnats de Martinique et la Ligue de Martinique. Donc sur le championnat de Martinique même, il y a eu trois qualifiés.
Oui.
Les trois premiers championnats. Ensuite, on a qualifié le premier pour les moins de 2002, le premier pour les moins de 1800. On a qualifié aussi par les championnats féminins, la première féminine, donc la championne de Martinique. Du championnat jeune, championnat de France. Championnat de Martinique des jeunes, comme il y en a qui n'ont pas pu aller à cause de l'école, puisque le calendrier n'est pas le même. Au championnat jeune, on leur a permis d'aller à la place au championnat en août. Donc ça fait déjà une dizaine de joueurs, au moins en août.
D'accord.
En plus, ceux qui vont accompagner, ceux qui vont aussi faire partie du déplacement par eux-mêmes. Donc là, j'ai compté hier, on est à peu près 23 Martiniquais contre 20 l'an dernier.
D'accord.
Au moins.
Ah, c'est un beau score, c'est pas mal. Quand même.
Ouais. Ouais, c'est
une belle délégation. Alors, tu as donc gagné ton premier titre de champion de Martinique, toi, en 98, et tu en as cumulé combien depuis?
Alors, le dernier, c'était en 2012, j'ai 7 titres.
7 titres. Donc ça fait de toi un des joueurs martiniquais les plus titrés, alors, sans doute, de l'histoire du...
Je suis le plus titré. Ensuite, il y a un joueur à 5 titres.
Ouais.
Et ensuite, c'est 3.
D'accord. Il y a une compétition entre vous pour savoir qui en aura le plus. Donc...
Voilà, disons que quand j'avais pu en avoir plus, mais je me suis mis à organiser des. Et si je suis à l'Angleterre, donc je me suis mis à organiser à arbitrer le championnat de Martinique.
Oui.
Donc il y a quelques années où j'ai pas pu. Où j'ai pas pu participer parce que j'étais arbitre et organisateur à plein temps. Donc, bon, on va dire que c'est pour ça que je les ai pas eu.
D'accord. Alors ça, c'est une très bonne transition, puisque tu vas nous dire... on va revenir sur cette histoire de palmarès, hein, tout à l'heure, on y reviendra, parce que ça nous intéressera. Mais c'est une très bonne transition pour nous dire à partir de quand tu prends la direction, la présidence de la Ligue de Martinique.
Voilà. Alors, en fait, avant la présidence de la Ligue de Martinique, en fait, donc, j'étais au club du Robert, le club de l'Arsenal, le Robert. Et à partir de 2003... Donc je deviens président du club de l'Arsenal du Robert, puisque l'ancien président qui passait en politique avait du mal à concilier les deux. Donc m'a dit bon ben Gilles, je te passe le flambeau. Et puis ça s'est fait naturellement puisque j'avais déjà commencé à être animateur, puisque j'avais passé le diplôme et tout ça, donc je l'avais cours aussi au club. Et après je suis devenu président du club de l'Arsenal. Donc à partir de là j'ai commencé à prendre des responsabilités, à voir un peu comment la gestion de l'association et tout ça fonctionnait. Donc en plus je me mettais à organiser des tournois au club, donc des tournois internes, après un tournoi pour le club. Il y avait un tournoi traditionnel qui était lors de la fête patronale, le premier tournoi auquel j'étais allé, et qu'on avait du mal à organiser à la rentrée. Donc j'avais proposé de créer un tournoi avant. Donc à la fin de l'année, civile pour nous, enfin la fin de l'année mexicaine, pardon, en juin. Et donc c'est là que je me suis mis à organiser aussi des open, quoi. Donc j'ai essayé après plein de formules. Et puis donc dans ça c'était 2003. Donc depuis 2003 jusqu'à maintenant je suis président de l'Arsenal. Et puis j'ai commencé à rentrer au comité de la Ligue. On m'a déjà proposé, mais à cause de l'activité du club, j'avais refusé. Mais à partir de 2010, voilà, je suis rentré au comité de la Ligue, je suis devenu vice-président en 2010. Et en 2013, donc l'année dernière, je suis devenu président de la Ligue d'échecs de Martinique.
D'accord, très bien. Donc, te voilà donc maintenant en charge de l'organisation, en plus donc d'être un des joueurs fer de lance, hein, de la Martinique, ce qui évidemment complique parce qu'il faut faire deux choses en même temps. mais alors donc tu vas nous parler un peu maintenant de après cette histoire, bon, qui est passionnante, hein. Moi j'adore les histoires de joueurs, j'aime savoir comment chaque joueur comme ça a découvert le jeu, et puis toi c'est par les livres, alors donc de ce côté-là on se rejoint. Moi j'étais aussi passionné par les livres, et moi y compris aussi par l'histoire du jeu, et mais par les livres bien sûr, parce qu'on n'a pas toujours un grand maître sous la main, donc les livres c'est bien utile. Et alors cette Ligue de Martinique maintenant, est-ce que tu pourrais nous en parler en tant que Ligue, est-ce que tu connais un peu cette l'historique de cette Ligue, quand c'est qu'elle a été créée, et quelle est un peu son histoire, est-ce que tu as quelques éléments à nous donner sur l'histoire de cette Ligue?
Donc en fait la Ligue a été créée en 1985, donc deux ans avant mon arrivée. Mais en fait il y a quelques joueurs qui se réunissaient, qui faisaient déjà des tournois avant. Donc il y a eu d'ailleurs le premier championnat a eu lieu avant 1985. Donc enfin non, il y a eu lieu en 83.
D'accord.
Donc il y avait déjà des tournois, des rencontres entre les îles, donc, notamment entre des matchs entre la Guadeloupe et la Martinique. Donc certains joueurs passionnés avaient commencé à faire ça, même avec la Barbette. Donc et après, d'ailleurs c'est Patrice Magdalene, le président du club d'Arsenal, qui a eu l'idée justement de créer la Ligue, quoi, d'officialiser les choses pour être affilié à la fédération et tout ça. Et donc la Ligue a été créée, et en même temps que deux clubs, donc l'Arsenal du Robert en 85 et le cercle Capablanca.
D'accord.
Donc voilà, ça c'était en 1985. Donc il y a eu moi je suis le sixième président, donc il y a eu plusieurs présidents de Ligue. Donc le premier président c'était Osman Gratius. Donc Patrice Spalmaden était donc le secrétaire à l'époque. Donc c'était un médecin. Et ensuite, donc Patrice Marie-Magdalen en 87, maître Eléadin. D'ailleurs, j'aimais beaucoup la façon dont il faisait ses discours. C'était un show à chaque fois. Il parlait vraiment bien, ce monsieur. Donc d'ailleurs toute sa famille, enfin tous ses enfants faisaient partie de la Ligue d'échecs et ils jouaient bien d'ailleurs. On a eu Joël Grassin, donc qui est toujours membre de la Ligue, donc qui était déjà aussi au départ membre du bureau, et c'était un des initiateurs au niveau du collège, avec Patrice Marie-Madeleine. Donc Joël Grassin qui est toujours présent, qui est d'ailleurs vice-président de la Ligue cette année. Encore, il a été président sur deux mandats, donc pendant 8 ans. Il s'est intéressé beaucoup aux échecs à l'école, en fait.
Oui, scolaire, oui.
Il a fait des échecs au niveau scolaire. Et puis, il s'est intéressé aussi à la création d'emplois pour pérenniser tout ça, parce que ça demandait beaucoup de monde, enfin beaucoup d'animateurs, donc. Il s'est penché là-dessus et ça a eu un beau succès. Après tout ça, nous avons eu, jusqu'en 2010, de 2010 à 2014, pardon, 2013, donc Daniel Bourdon, qui était aussi une présidente, qui était aussi déjà à la Ligue, qui était en assesseur et tout ça. Elle nous a permis de structurer, en termes de mise en place d'outils, en termes de rigueur, de mettre en place tout ce qu'il fallait pour que d'ailleurs maintenant la Ligue, en tout cas j'ai moins de boulot, on va dire, en termes de structuration, parce qu'elle a tout cadré, de toute façon, parce que maintenant, la Ligue, je n'ai qu'à, entre guillemets, bosser sur le fond, l'avenir, quoi. La structure est là, donc je n'ai qu'à travailler sur les projets nouveaux, les projets neufs, et puis essayer de la faire monter un peu plus.
D'accord.
Par exemple, les difficultés qu'on a eues ces 4 dernières années, c'est en termes économiques.
Oui.
On a pas eu de local, on a eu du mal à financer un local même pour accueillir les bureaux de la Ligue. Donc on fonctionnait sans local, sans structure. Donc les réunions qu'on avait, c'est un local associatif qui s'appelle le CROSMA, dans lequel pas mal de ligues fonctionnent, mais qui nous on avait l'occasion d'avoir des salles de réunion, mais sinon l'essentiel se faisait à domicile, quoi. Donc d'ailleurs, en termes de matériel, moi j'ai pas mal de cartons de la Ligue, pas mal de matériel de la Ligue chez moi. C'est en train de changer, donc un des projets phares de la Ligue cette année, c'est de trouver un local. D'ailleurs, ramener la Ligue sur le Robert, donc la ville de Suisse, ce qui est en train de pratiquer est supérieur à ce qu'on pourrait avoir avant. Là, on m'a proposé justement, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, un terrain quasiment, où on pourra mettre au départ pour commencer un bon mobilier pour accueillir les locaux de la Ligue. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. En termes de structuration, ce sera un élément important pour l'avenir.
D'accord. Alors, parlons au niveau géographique. Hein, alors, je connais pas bien la géographie des îles martiniquaises et guadeloupéennes. Mais alors, tu m'as dit hors antenne, mais tu vas peut-être nous rappeler que la Guadeloupe et la Martinique, bien qu'étant proches, mais en avion, parce que tu m'as parlé de 45 minutes d'avion, mais tu vas nous rappeler ça. Mais il y a deux ligues, là. Hein, il n'y en a pas qu'une, c'est deux ligues. Il y a Martinique d'un côté et Guadeloupe de l'autre. Et alors, pour la Martinique, est-ce que tu peux nous dire un peu sur la démographie, en fait, il y a combien d'habitants en Martinique?
Alors, je crois qu'au dernier recensement, il y a quelque chose comme 450 000 habitants. J'ai pas trop les chiffres en tête, mais il me semble que c'est ça. Mm-hmm. C'est petit, la Martinique, hein, en gros, c'est 90 km sur 30 km. Alors, 90 de long et 30 de large. Dans la superficie, ça va être un truc comme 1130 km². Donc, c'est pas très grand. Mais en même temps, on trouve que les distances sont énormes. Par exemple, si on fait un tournoi au bord de l'île, ceux du sud disent que c'est loin, quoi. Alors qu'on a moins d'une heure de route. Donc, c'est bon. Mais on trouve même d'arriver en retard. Alors même pour les tournois, normalement on n'a pas la cadence, enfin le délai accordé pour les retards, c'est 30 minutes, mais nous on le fait à 1 heure. Bon, simplement pour deux raisons. La première, c'est que même pour rejoindre un bout de ligne à l'autre, il y a beaucoup d'embouteillages. Donc ça c'est pas évident. Et puis il y en a qui ont pris l'habitude, bah, on va pas vite, hein. On se prélasse, on dit que voilà, bon, on a l'habitude et on arrive en retard, mais bon.
Ouais.
On
n'est pas trop speed en Martinique, il fait chaud quoi en fait. Mais,
là, c'est chaud, donc
ouais, oui, bien sûr. Bah, c'est sûr que la chaleur,
ça.
Oui, mais
bah,
oui, non, mais c'est clair.
Voilà,
on
est
dans ces lieux,
donc c'est entouré d'eau, donc on a des plages.
Eh oui.
On a le soleil, on a pas d'hiver. Quoi d'autre, eh oui. Les températures, bon, c'est du 20 degrés tout le temps, hein, enfin. Plus bas, quoi, je veux dire. Donc, là, il fait 32 degrés aujourd'hui. Bon, c'est pas. La saison de pluie, par exemple, c'est prévu entre juillet et octobre. Mmh. Donc, c'est là qu'il y a des cyclones, des choses comme ça, c'est à cette période-là, mais bon, c'est pas si fréquent que ça. Et même quand il pleut, bon, ben, on sèche vite. Donc, il y en a plein qui m'ont dit pourquoi par exemple je passe pas, pourquoi je, si je veux jouer aux échecs autant que ça, pourquoi je ne reste pas sur ma métropole, parce que c'est là que je pourrais jouer aux échecs tout le temps. Je dis je préfère payer un billet d'avion, mais m'entraîner à Martinique au soleil et puis aller juste pour la compétition en France. Hein.
C'est pas la même chose. Et puis alors en étant en Martinique aussi, tu contribues au développement du jeu, c'est-à-dire que les nouveaux joueurs après toi, sans doute, auront un meilleur niveau que ta propre génération, puisqu'ils apprendront de votre génération.
Voilà, c'est de vous, quoi. C'est toute partie de don de soi. Bon, voilà, abandonner tout ça, je pense que ça vaut pas spécialement le coup. Par contre, bon, c'est vrai que j'aime bien faire les tournois en France. D'ailleurs, en France ou ailleurs, je me suis spécialisé à un moment dans les marathons d'échecs. J'enchaînais par exemple en juillet, août, j'enchaînais tous les tournois possibles. Le plus grand marathon que j'ai fait, c'est 64 parties en 64 jours. Mmh. Et j'avais fait, je crois, Villard de Lens, Championnat de Paris, Rennes. Ensuite, j'étais rentré à Martinique. J'avais fait Curaçao, Trinidad. Ensuite, j'étais reparti le lendemain en France. J'avais fait Nîmes et Dieppe. J'avais fait 64 parties en 64 jours et j'avais eu la chance de trouver un billet d'avion. Enfin, comme à force de faire les tournois aller-retour en France et en Martinique, j'avais eu accumulé des miles. Parce que quand on prend l'avion à cette distance, 7000 km, ça rapporte des miles. Donc j'avais pu avoir un billet d'avion à 120, l'aller à 120 euros et le retour à 20 euros. Donc j'ai pu faire deux fois l'aller-retour en Martinique et France. Parce qu'en moyenne, un billet d'avion, c'est 700 euros. Donc la difficulté, c'est ça.
D'accord.
En France, pour faire le tournoi, c'est un. Donc, en principe, on optimise le billet d'avion qu'on a gagné. Et on essaie de faire pendant une tournée.
64
parties pour gagner 2 points et 2.
64 parties en 64 jours, ça pourrait faire le titre d'un joli livre. Hein. T'en as pas fait un livre
C'est tombé exactement pile poil. Alors, en fait, le truc, c'est que, par exemple, entre Villard de Lens et Chantal Paris, je devais perdre une ronde. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Et du coup, ça a dû faire 65 parties. Et comme j'ai fait une ronde sans jouer, donc ça a fait 64 parties en 64 jours exactement.
D'accord.
C'était fabuleux.
Et alors, pourquoi tu devrais en faire un livre de cette histoire-là, non?
C'est vrai. Là, je suis en train de faire le compte. Là, j'essaie de compter le nombre de tournois que j'ai fait dans ma vie, là, jusqu'à maintenant.
Ouais.
Et je suis à 200 tournois.
D'accord.
Au moins. Ouais. J'ai pas tout compté.
Ça fait beaucoup.
Raconter tout ça, je le raconte déjà aux joueurs. Et puis c'est pas mal de voir, par exemple, sur une quatre parties, comment le cerveau est à l'issue du marathon. Quoi.
Oui.
C'est quatre parties. La 28e partie, par exemple, là je changeais de répertoire, je jouais D4, parce qu'il y a moins de calcul entre guillemets. Voilà, je pouvais. Et puis vers les dernières parties, bon là, c'était la lobotomie, je donnais des pièces, je voyais plus rien, j'avais de grandes illusions. Et lorsque je rentre à Martinique, il me fallait quasiment 3 semaines de digestion pour que le cerveau reprenne son état normal. Quoi.
D'accord.
Je ne sais plus comment les gens s'appelaient, enfin c'était un vrai marathon.
D'accord.
C'est intéressant à faire.
Alors, Gilles, si tu veux bien, on va faire une pause musicale. On fait une pause musicale dans Fréquence Diagonale, et puis on revient avec toi juste après, puisqu'on va on va parler dans cette deuxième partie, après toutes ces histoires passionnantes que tu nous as racontées, hein, beaucoup sur ton parcours, et puis sur cette ligue donc de Martinique, hein, assez jeune finalement, qui se développe et qui envoie une délégation donc chaque année nombreuse, hein, au championnat de France. Tu nous l'as rappelé. Donc on reviendra avec toi donc pour parler cette fois des tournois de Martinique, puisqu'il y en a, pour qu'on parle des dates, et on verra qu'il y a des grands maîtres aussi d'échecs, il y a des tournois de grands maîtres en Martinique qui viennent se dorer la pilule aux échecs et en Martinique. Donc c'est pas des moindres, on en parlera juste après. Et puis on finira pour parler aussi, on parlera du calendrier martiniquais au sens large, et notamment pour les jeunes, comment les jeunes de Martinique se qualifient pour le championnat de France des jeunes, et on rappellera des dates. Donc on se quitte et on se retrouve juste après cette pause musicale sur Fréquence Diagonale. beaucoup, voici de retour dans Fréquence Diagonale, toujours avec Gilles Suez Panama, le président de la Ligue de Martinique du jeu d'échecs, hein, la Ligue où il fait chaud, la Ligue où, évidemment, pour jouer aux échecs, il faut être encore plus motivé qu'ailleurs, sans doute, pour ne pas être tenté d'aller à la plage. Donc, la Martinique, donc avec Gilles, qui est 7 fois champion de Martinique, hein, qui a atteint un très bon niveau. Et oui, tu as atteint un très bon niveau, Gilles. Puisque alors, tu as eu plus de 2100 élo, hein, je crois bien. Tu as eu un...
Ah, mon maximum, c'est 2177.
Voilà, donc un excellent classement de niveau national. Hein, ça permet de jouer à très bon niveau. À ce niveau-là, on peut arriver à accrocher des maîtres internationaux, voire parfois des grands maîtres. Hein. T'as des résultats contre des titrés, tiens, par ailleurs ?
Oui, j'ai battu le plus fort que j'ai battu, c'est un 2400, un grand maître espagnol, je crois, je sais plus. J'ai fait des nuls contre des maîtres et des terriers, par exemple. Je sais que j'ai battu un grand maître, par contre c'était en simultané, mais en 88, hein,
ouais.
Quand j'ai devenu en Martinique. Bon, j'ai eu de la chance, mais bon, c'était déjà la marque de mon talent.
Ouais.
J'ai plein de chance dans mes parties, je gagne des parties, mais perdu, je sais pas comment. Mais j'ai beaucoup de chance. Je crois qu'il faut savoir créer la chance. Et puis, le plus fort que j'ai battu, malheureusement, en fait, il n'a pas joué. C'est à 2600, mais pour moi, je l'ai battu. J'ai joué un coup, F4, et il n'a pas répondu, parce qu'il avait un problème avec l'arbitre, je crois, donc il a refusé de jouer, mais il m'a félicité pour mon excellent coup. Voilà, c'est la petite anecdote, mais bon, il est dans ma base de données, donc voilà. Mais j'ai pas mal de bons résultats, mais des parties gâchées, puisque je suis capable du meilleur comme du pire, je crois. Mais ça, je pense que cette année, si je m'applique un peu mieux, puis si je suis concentré, je pourrais enfin atteindre la norme, quoi.
D'accord.
L'objectif que je me répète chaque année.
D'accord. Alors, on va parler maintenant des tournois de Martinique. Tu veux nous parler. Alors, il y a au moins un championnat de Martinique qui vient d'avoir lieu d'ailleurs cette année. Hein. On est là le 27 mai. Je crois que les résultats sont tombés tout simplement avant-hier.
Hein, avant-hier.
Hein, donc, tu termines cette année troisième.
Le nouveau champion de Martinique, c'est Pascal Vernon. D'ailleurs, c'est son troisième titre. Il a eu le titre quand il avait 18 ans et 16 ans et 17 ans.
Oui.
Et là, il a eu son troisième titre après 15 ans. Il est après ses études de médecine, donc là, c'est Pascal Vernel, donc nouveau champion de Martinique. Enfin, il était deuxième élo du tournoi. Et le deuxième, c'est donc le champion de Martinique, c'est Mathieu Midonnet, c'est le plus fort élo du tournoi, c'est 2180. Et ensuite, moi, troisième, enfin, deuxième avec Déco, avec 8 points.
D'accord.
Donc, moi, je suis assez content, bon. J'ai dû organiser.
Alors, ce championnat de Martinique, il a lieu quand d'habitude? Toujours à la même date, en mai chaque année?
Donc, le championnat de Martinique, en fait, là, bon, c'est la nouvelle formule cette année. En général, le championnat a lieu au mois d'avril, donc à Pâques.
Ouais.
Et depuis 2 ans, on a proposé, enfin, puisque on a proposé une nouvelle formule en tournoi fermé. C'est-à-dire qu'on qualifie des joueurs, par le classement ILO. Donc, il y en avait 6. Qualifié par le classement ILO du mois de mars. Ensuite, il y a le champion de l'année dernière, donc ça fait 6 joueurs, et il y avait 6 autres qui étaient qualifiés par le code international qui avait lieu juste avant le mois d'avril. Donc le code international que la Ligue organise, dans lequel il y a le grand maître et tout ça, et donc les 6 autres places pour le tournoi fermé à 10 joueurs qui a eu lieu la semaine dernière.
Au mois de mai, d'accord. Donc ça veut dire qu'en 2015, ce tournoi, le championnat de Martinique aussi aura lieu au mois de mai aussi.
Voilà, donc l'année prochaine, alors dans le calendrier, en principe, ce sera au mois de mai. Et là, donc, au niveau de la formule, en plus du tournoi fermé cette année, on a créé deux tournois qu'on a appelés Open A et Open B. Donc un tournoi à moins de 1500 élo, donc Open B, et un tournoi à plus de 1500 élo. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas la chance de se qualifier pour le tournoi fermé peuvent quand même jouer. Et on a fait une sorte d'accession, en fait. Donc les deux premiers de l'Open A de cette année sont qualifiés pour le tournoi fermé l'année prochaine. 5 meilleurs élèves, on va prendre les trois meilleurs élèves. Donc ça fera 5 joueurs, plus le champion, plus comme l'année dernière, les 6 de l'Open international. Donc voilà, en fait, on calque un peu la formule du national, en fait, national français. Mmh. Donc le national, championnat national en France, c'est 12 joueurs. Et puis il y a le tournoi d'accession qui qualifie 2 joueurs. Et puis on essaie de calquer sur ça. Et à partir de maintenant, ce sera plus ou moins cette formule. Donc au lendemain, l'année prochaine, le 2015, ce sera les tournois fermés et les Open en parallèle. Et puis l'Open international qui aura lieu au mois d'avril, qui va qualifier les joueurs. Alors le tournoi, enfin le championnat de Martinique, donc comme j'ai dit tout à l'heure, qualifie les joueurs pour le championnat de France. Bien sûr, le championnat de Ligue, il est qualifié pour l'accession. Donc comme on n'a pas l'occasion de rencontrer des joueurs de haut niveau, donc évidemment c'est une chance de pouvoir faire l'accession. Donc les joueurs vont se presser de le faire. Par contre, la Ligue aide, parce que c'est difficile d'aller en métropole pour faire des tournois, la Ligue aide en termes de billets d'avion, aide les joueurs à y aller, donc en leur offrant un billet d'avion. Donc il y a les trois meilleurs gagnent le billet d'avion, et puis les meilleurs demandent 2000 et les meilleurs demandent 1800.
D'accord, donc dans le prix de champion de Martinique, il y a avec le billet d'avion pour aller jouer au championnat de France, donc ce qui est effectivement, bon, ben, ça fait partie du prix, c'est un joli prix et c'est tout à fait, je pense que c'est tout à fait intéressant et qu'il faut bien sûr encourager ce type de qualification par les ligues.
Voilà, c'est... Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir gagné ce billet d'avion, malgré ça, ils savent déjà que c'est un tournoi important et intéressant. Ils prennent sur eux de faire partie de la délégation et de partir aussi tenter leur chance au championnat de France, parce que ce sont des thèmes. Mais une fois qu'on l'a fait, en général, bon, pour nous, c'est toujours l'aventure. Même si, bon, il ne fait pas froid, mais là, c'est toujours une expérience. On sert le coup, donc ça va.
Si, il fait. Ouais, alors moi.
Ouais. Enfin, hors saison pour nous, c'est février, par exemple, Cap-et-de-la-Grande, où moi je l'ai fait plusieurs fois, et bon, c'est une aventure pour nous. C'est la première fois que j'ai vu la neige tomber, donc moi j'ai même fait des photos et tout, donc c'était. Même si, voilà, c'est pas le soleil, mais on est content d'y aller, même juste pour 15 jours, c'est toujours bien.
Ceci dit, au mois d'août, pour un championnat de France qui aura lieu à Nîmes cette année, vous serez pas trop dépaysé. Il fera chaud, quoi.
L'année dernière, on l'a fait à Nîmes, c'est vrai qu'il fait trop chaud.
Ouais, ben oui, parce que c'est pas tout à fait au bord de l'eau, donc forcément c'est un peu plus chaud. Alors, donc très bien, donc on a parlé abondamment, on a du championnat de Martinique. Alors, il y a un autre tournoi dont tu as parlé, c'est ce fameux Open International. Alors moi j'avais vu, hein, j'avais été frappé par ça il y a quelques temps, je sais pas, il y a un an ou deux, je sais plus. J'avais vu que ce tournoi, il y avait un tournoi donc international, et vraiment international, puisqu'il y avait deux ou trois grands maîtres, ou plus, hein, d'ailleurs, je ne sais plus, mais qui venaient jouer. Je crois que ça se passait dans un bel hôtel de Martinique, il me semble. Et il y avait notamment le grand maître international connu en France, Yannick Pelletier, un grand maître suisse qu'on connaît bien, et qui est un très fort joueur, bien sûr, qui a été de multiples fois champion de Suisse, et qui est grand maître international. Je rappelle quand même sur l'émission qu'il n'y a que 400 grands maîtres internationaux actifs dans le monde, hein. Donc c'est pas beaucoup, et bien sûr c'est le plus haut titre que l'on puisse obtenir, à part après bien sûr être champion du monde ou de gagner un tournoi majeur comme nos grands champions que sont Laurent Frayssinet, Étienne Bacrot, Maxime Vassilagrave ou Joël Lautier. Bon, là, c'est des grands maîtres un peu hors catégorie. Mais bon, voilà. Donc, il y a des grands joueurs qui viennent jouer ce tournoi. Donc, tu vas nous en parler un peu de ce tournoi. Il a lieu quand, il a lieu où, et qui vient le jouer?
Voilà. Donc, c'est l'Open International de Chef de Martinique. Donc, c'est à l'Hôtel de la Batelière. Donc, en fait, ça se déroule au mois d'avril, en général, à Pâques, sur 5 jours. Donc c'est un tournoi à 2 rounds par jour. La cadence est 1h30 plus 30 secondes, donc 4 heures de jeu maximum, enfin avec un bout de temps. Donc les prix, le premier prix en fait pour attirer les joueurs, pour avoir justement, pour attirer l'attention sur nous, voilà, on a décidé de mettre le premier prix à 3000 euros. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu plein de mails dès l'annonce du tournoi, plein de mails de grands maîtres et de super grands maîtres qui voulaient participer. Oui. Donc pour la petite histoire, par exemple, donc on a eu Yannick Pelletier, mais on a eu aussi un grand maître de Géorgie, donc c'est Samy Kitley, pour indiquer. ben, qui a découvert la Martinique par hasard. C'est qu'il cherchait des tournois et quand il a vu l'annonce, il a cliqué sur... Il a cliqué sur Google, enfin il a tapé sur Google Martinique et il a vu qu'il est tombé, enfin il n'a eu aucune réponse sur son moteur de recherche. Alors qu'il a zoomé, il a vu que la Martinique c'était un tout petit point, c'était à 7000 km de la métropole, et donc il m'a envoyé un mail et puis on a commencé à échanger des mails et puis voilà, on a pu le faire venir à Martinique pour notre hôtel entre autres. Donc on a eu, puisque l'objectif au niveau de la Martinique, c'était de pouvoir faire des dames de maîtres internationales. Donc il nous fallait un plateau avec des maîtres et des grands maîtres et des nationalités différentes. Donc on a eu des Espagnols, on a eu deux joueurs de la République tchèque, voilà. On a eu aussi quelques joueurs de la Caraïbe, Barbade qui voulait aussi faire les normes, tout ça. Le cadre, enfin le thème, c'était l'idéal pour pouvoir faire 4 heures de jeu, enfin 8 heures de jeu par jour, pouvoir se relaxer, faire les parties, parce que la salle est excellente, et puis il y a la plage tout en bas, en plus de la piscine, donc voilà, c'est presque des vacances offertes. On peut être studio, puisque la salle est là, et puis on peut aller se détendre tout de suite à la piscine, etc. Alors, l'arbitre international qu'on a eu, c'est Annemel Kouklak, que tout le monde connaît. J'ai eu son contact par Laurent Frey, que j'ai rencontré au tournoi international de Gibraltar, qui m'a organisé, et puis il m'a proposé de rentrer en contact avec elle, pour deux raisons. La première, bon, parce qu'elle peut arbitrer un tournoi international, et en plus qu'elle est formatrice, puisqu'on organise à cette occasion un stage d'arbitrage avant le tournoi. Donc, comme ça, on essaie de former des arbitres internationaux, des arbitres locaux. Donc voilà, on a fait une pierre de coups. Et depuis, depuis 3 éditions, c'est toujours le même arbitre qu'on a, Adénon Kouchak, qui arbitre donc, juste avant l'État international avec Capelle Lavande, puis la Martinique, puis le tournoi de Norvège. Donc j'aime bien faire dans le palmarès, puisqu'il est en contact avec les Kravnik et tout ça. Donc.
D'accord. Et alors, ce tournoi international de Martinique, ça fait combien de temps qu'il existe ?
Donc là, cette année, c'est la 3e édition.
D'accord.
La 3e édition, et on prépare déjà l'édition 2015, on a essayé de l'annoncer bien plus tôt, et on commence à prendre le pli. Bon, on a voulu mettre une journée de repos entre les deux, mais on a eu une petite panne de salle à un moment. Donc, bon, sinon, le format va rester plus ou moins le même, c'est-à-dire 9 rondes et 5 ou 6 jours de tournoi. On profite justement pour mettre une journée plage. On a fait des photos avec les joueurs, enfin on met des tables sur le sable et tout ça. Enfin, on a diffusé pas mal de photos sur le site et sur le site de la Ligue. On montre justement qu'on peut jouer à l'échec à la plage en mettant une table dans l'eau. Et voilà, quoi. On peut se détendre, jouer à l'échec et...
D'accord.
Et profiter de tout ce qu'on a. Quoi.
Donc pour 2015, je suppose que les places sont limitées. Donc pour 2015, on peut réserver tout de suite, là, si, s'il y a des gens, si les joueurs...
Alors, on a encore de la place. On a encore de la place, puisque bon, la salle est extensible.
Ouais.
Simplement, en termes d'invitation, bon, ça va vite, puisque le budget n'est pas énorme. Donc on essaie de convaincre les partenaires. Bon, il y en a plein qui nous suivent, notamment le groupe Montpellier qui est partenaire de l'hôtel aussi. Qui est propriétaire de l'hôtel aussi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est la crise un peu partout, mais bon, on essaie de faire en sorte d'être aussi attractif pour les étrangers que pour les joueurs locaux et les joueurs de la Caraïbe, quoi. Mais c'est vrai que pour la période, on peut, au niveau de la métropole, on peut trouver des billets d'avion, puisque c'est des freins, des billets d'avion assez bon marché, à hauteur de 400 euros. Pour venir faire le tournoi. Donc, dès que les dates seront ficelées, je pourrai diffuser et vous pourrez commencer à réserver pour l'édition 2015. Quoi.
D'accord, alors à noter, j'en profite là pour donner un petit coup, on le fait toujours aussi, un petit projecteur, coup de projecteur sur le site internet hein, de la Ligue de Martinique qui est très bien fait, qui est très beau, d'ailleurs je suis dessus là actuellement, je regarde, donc il est bien sûr référencé sur le site de la Fédération Française d'Échecs, hein, si on cherche Ligue de Martinique dans les ligues, on retrouve le lien vers le site et qui s'appelle Donc ce site, c'est échec-martinique, donc échec avec un S, toujours le jeu d'échecs, bien sûr, E-C-H-E-C-S, échec-martinique.com. Voilà, et donc ce site, il est magnifique, il est très bien fait, très joli. Donc il y a un menu à gauche où il y a à peu près tout, et puis là, il y a les dernières actualités, dont... Ben on voit bien sûr le résultat du championnat de Martinique et on retrouve les partenaires des tournois dont tu nous as parlé, Gilles, l'hôtel partenaire, ainsi que d'autres entreprises aussi là, qui soutiennent la Ligue de Martinique et cette Open international. Alors, ce site internet...
Juste à noter, ouais. Notre site, c'est-à-dire que, bon, on doit faire 4 mises à jour. Bon, elles ne sont pas encore toutes officielles, par exemple, bon, juste pour la petite anecdote, il vous fouillez un petit peu. Donc, si vous cliquez sur créer un club, par exemple, vous trouvez des prix qui seront en francs toujours. Bon, c'est parce qu'on doit faire un gros travail de restructuration, mais bon, là, on a fonctionné sur le fond, tout le fond est OK. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à la forme, et notamment le site, et essayer de mettre à jour, préparer un peu des vidéos, des choses comme ça, notamment pour les 30 ans de la Ligue, on va faire ressortir toutes les informations, tout l'historique de la Ligue d'échecs de Martinique. Donc il sera encore mieux.
D'accord, mais il est déjà pas mal, je le trouve très beau, très bien, très beau. Il est bien présenté, il est clair, donc voilà, c'est un site intéressant. Apparemment, par contre, il n'est pas fait sur un type WordPress ou ce genre de choses, il est fait à la main, non, c'est ça, chaque page est créée à la main. Tu es au courant, tu sais comment le site internet est géré, comment il est fait?
Alors, je ne sais pas si c'est WordPress, mais je sais que par exemple, on a accès, enfin le club, normalement, on a un accès qui est réservé en cliquant sur le blog de club. On avait la possibilité de donner un code à chaque club pour qu'ils puissent mettre et poster leur actualité.
Ouais.
Et ça, c'est fait sous WordPress.
D'accord.
Donc, je ne sais pas si l'ensemble est fait dessus, mais en tout cas, la partie blog des clubs est faite avec WordPress. Et d'ailleurs, j'étais un des rares en tant que responsable de club à poster. Et d'ailleurs, c'est un combat qu'on a eu avec les autres présidents du club pour qu'il essaie de l'alimenter, mais bon, ça n'a pas suivi. Donc là, bon, maintenant, en tant que président de club, je vais repartir en campagne pour que l'ensemble des clubs y participent. Mais bon, à l'époque, c'est vrai que j'ai beaucoup essayé d'alimenter ce site, enfin, d'y participer, quoi. Donc là, c'est, quand je dis que j'étais au fond au moulin, ben, c'était aussi ça, quoi. En tant que président de club, voilà, j'ai essayé de faire en sorte que le site de la Ligue soit plus riche, enfin plus alimenté au niveau du blog en tout cas.
D'accord. Alors il y a une solution aussi que je te donne aussi, on parle un peu, c'est sur Fréquence Diagonale, on est sur Internet et on aime beaucoup Internet bien sûr. Et la technologie et bien sûr, alors en particulier WordPress ou Joomla, les content management systems, parce qu'ils sont pratiques et qui permettent d'avoir des sites de belle tenue. Et surtout, c'est des logiciels qui sont libres, des logiciels que l'on peut télécharger librement, installer librement, qui ne sont pas des logiciels privés, privateurs de liberté, comme dit Richard Stallman. Mais donc, il y a une solution, c'est de aussi, pour alimenter un site comme ça de ligue, qui, bien sûr, aimerait avoir les informations des clubs, c'est que si ces clubs eux-mêmes ont un site internet avec ce qu'on appelle un flux RSS, eh bien, on peut récupérer tout leur flux RSS d'informations et les intégrer dans une liste de news, en fait. Ce qui fait qu'automatiquement, sur le site de la Ligue, vous pourriez avoir les news postées par les clubs directement, qui postent directement sur leur site à eux, mais que vous pourriez récupérer sans qu'ils aient d'efforts à faire particuliers. Vous récupériez toutes les informations. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose que d'aller poster spécifiquement pour la Ligue un article, puisque ça oblige à faire une double manip s'ils veulent le mettre sur leur site et sur la Ligue. En faisant comme ça, vous pourriez récupérer automatiquement. Bon, ça demande un peu de réflexion informatique, mais si vous avez un webmaster et que vous lui dites on aimerait récupérer les flux RSS des clubs pour les afficher sur le site de la Ligue, eh bien, il devrait comprendre la question et il devrait, avec un peu de recherche, savoir comment faire. Voilà. Voilà, donc ça peut aider. Donc, alors très bien, donc c'était important hein, de parler aussi du site internet, on aime bien en parler, bien sûr. Donc ça permet. Mais d'ailleurs, peut-être que les clubs seront intéressés d'écouter Diagonale TV, Fréquence Diagonale, mais bon, c'est pareil. Mais Fréquence Diagonale sur peut-être sur le site de la Ligue, si vous le proposez à l'écoute, comme ça ils pourront bien sûr avoir l'émission en libre accès, sans problème. Donc alors...
Le programme de cette année justement, donc le programme de cette année, donc on a eu Christian Boer,
oui.
Mathieu Cornette, on a eu Rosis aussi, Igor. Enfin, on a eu, voilà, c'est le... Comment dire, on a essayé d'avoir des joueurs de 2600, 2500, 2400, 2300, etc. pour un panel assez large. Ça a bien plu cette année. Je pense que l'année prochaine, on aura, en plus de cela, je pense qu'ils sont contents, qu'ils ont été ravis du tournoi, donc Shirazi aussi. Il y en a qui se sont déjà prêts à inscrire pour l'année prochaine. On aura un beau plateau si tout va bien.
D'accord, donc un tournoi qui marche bien, qui en est à sa troisième édition et qui fait parler de la Martinique, puisque moi-même j'avais quand même été frappé par les belles photos de la mer et des grands maîtres en train de jouer là-bas, et c'est vrai que ça donne envie d'y aller, très clairement. Alors, on a parlé de ces deux tournois. Est-ce qu'il y a d'autres tournois importants dans la saison martiniquaise qu'il faut noter
Alors là, je vais juste parler d'un tournoi donc, qui a eu lieu juste cette année, mais qui était juste deux jours après l'Open International de Martinique. C'était le troisième Karista Games d'échec. Donc le Karista, c'est une zone qui sont sur la région de la Martinique, donc par exemple les îles comme les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, le Suriname, les Bahamas et tout ça, que ce sont toutes ces îles dans le bassin caribéen qui ont fait des dénominations. Donc ça concerne, c'est un tournoi jaune en fait, c'est une sorte de championnat jaune on va dire, mais pour les îles du bassin caribéen. Donc on a eu organisé, donc c'est une grosse compétition importante en tout cas pour cette zone-là. On a eu à l'organiser juste après le pays international. Donc j'ai dû, entre autres, gérer l'organisation de ces deux. Restait un défi d'organiser les deux tournois coup sur coup. Il a eu lieu aussi à l'hôtel de la Batelière, d'ailleurs, tout le monde a apprécié le cadre. Donc cette année, c'était exceptionnel, on a eu ces deux manifestations à coup sur coup. Mais cette année, c'était un Martinique pour le Karista, l'année prochaine, ce sera Barbade, etc. Donc c'est un tournoi qui au niveau des jeunes, nous, des fois, nous pose problème, puisque ça a lieu pendant le championnat de France jeune, et ça a lieu aussi des fois sur notre open international. Donc des fois, il faut qu'on gère la faisabilité des deux, puisqu'il y a plein de jeunes qui veulent faire et l'open international, et le Karista Games, et le championnat de France jeune, puisqu'on a des jeunes motivés qui veulent jouer, donc on essaie de faire en sorte qu'ils puissent participer à tout. Donc l'année prochaine, par exemple, ils voudront faire l'open international, le Karista à Barbade, et après, le championnat de France jeune qui aura lieu, heureusement, un peu plus tard, mais pendant l'école. Donc c'est une particularité. Donc ça, c'est ce qu'on a organisé cette année, qui est assez particulier. Donc sinon, en termes d'autres tournois organisés par la Ligue, donc on a le championnat féminin rapide. On en a deux, en fait. On a un championnat féminin rapide et un championnat féminin lent. Et d'ailleurs, on a eu 72 joueuses. Donc on a chaque année quasiment le plus grand nombre de participantes à ce tournoi. Tournoi qualificatif, en tout cas pour le championnat de France rapide. Et d'ailleurs, la finale aura lieu au mois de juin. Et on aura trois représentantes à ce tournoi en France. Donc ça c'est le championnat féminin rapide, ça a lieu le 8 mai chaque année.
D'accord. Ouais.
On a l'habitude de le faire à la piscine, enfin à la plage plutôt. Donc c'est un tournoi qui a tiré, l'année dernière on a eu 120 joueuses.
Ah oui, c'est beau parce que...
On n'a pas pu l'organiser par les mêmes conditions, on a eu que 70 entre guillemets. Ouais. Et l'année prochaine on va retourner. La famille, c'était d'avoir une journée en famille, une journée échec et détente. Donc pendant que les filles jouent, bon, les parents sont à la plage, à la mer, etc. Et bon, c'est le concept de journée famille qui je pense a fonctionné. La difficulté, c'est un peu cher des fois, donc il faut trouver des partenaires pour aider à chapeauter tout ça. Donc cette année, on n'a pas pu les avoir, mais l'année prochaine, je pense qu'on va revenir à la formule, et je pense qu'on pourra dépasser largement les 150 joueurs.
Ah oui, c'est exceptionnel, parce que ça, c'est une particularité martiniquaise, parce que c'est rare même en métropole, même je connais pas de tournoi qui réunisse 150 joueuses féminines, à part peut-être le championnat des jeunes féminins, où là, bon, bien sûr, il y a championnat de France, hein, des jeunes féminins, où là, bien sûr, il y a du monde, mais sinon...
Chaque année, on a reçu un diplôme de la fédération de la responsable des féminines,
ouais.
qui nous félicite à chaque fois pour ces résultats, enfin, pour
la participation.
Ouais. La participation.
Ouais, ouais, non, mais c'est oui, tout à fait, c'est tout à fait exceptionnel, on est d'accord. Hein.
Voilà. Alors, toujours pour les féminines, on a organisé aussi cette année le troisième championnat féminin de partie lente, donc des parties d'hiver.
Ouais.
On a eu 48 féminines.
Ouais.
Contre 19 l'année d'avant. Donc, ça aussi, c'est un gros succès.
Ça marche bien, hein?
Le participe au tournoi ouvert, enfin, au tournoi mixte et au tournoi non mixte. Donc, on a aussi pas mal de femmes adultes qui, au début de l'année, accompagnent souvent leurs enfants à l'inscription, et puis on leur dit, mais pourquoi ne pas vous inscrire? Et puis, ils prennent goût, et bon, finalement, des fois, c'est moi aussi qui participe au tournoi, donc... Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que les deux peuvent y participer.
D'accord, ouais, d'accord, donc très bien.
Le championnat de partie, il a eu lieu en octobre, je crois que voilà, chaque année il sera au mois de mars, chaque année il sera au mois de mars.
Une dimension de succès inattendue de la Ligue de Martinique, c'est le côté féminin, là, effectivement, qui fonctionne de façon tout à fait pertinente et avec succès. Donc, et alors, puisqu'on a fait un peu le tour là des tournois, peut-être. Alors, si on venait maintenant, peut-être pour finir, Gilles, sur maintenant l'organisation du championnat des jeunes par la Ligue, comment ça se passe au niveau du calendrier sur l'année?
Alors, concernant les jeunes, on a donc le championnat jeune, il a lieu au mois de mars aussi. On le fait sur 2-3 jours. On qualifie donc c'est les parties d'une heure, on n'est pas encore passé en fil, puisqu'on en a pas beaucoup. C'est un peu difficile au niveau du calendrier. Mais on a. Donc toutes les catégories jeunes, on le fait jusqu'à junior cette année. Et les lauréats sont qualifiés pour le championnat de France qui a lieu au mois d'avril.
Oui, tout à fait.
Donc,
ouais.
On qualifie on a les chiffres donnés par la FFE qui nous permet un nombre de qualifiés. Donc on les qualifie, donc ça fait à peu près une vingtaine d'enfants. Alors, à peu près deux par catégorie d'âge. Hein,
deux par catégorie, d'accord.
Donc c'est la moyenne par rapport aux chiffres qu'on a. Par contre, nous, en termes de prise en charge, la Ligue, pareil, offre un billet d'avion, offre une participation au déplacement pour le champion de chaque catégorie.
D'accord.
Donc, parce que financièrement, c'est pas évident de faire voyager 20 personnes, et surtout que c'est pas forcément une bonne période, parce que des fois, ça tombe sur le temps scolaire, ouais. La période scolaire ou pas. Donc, on préfère laisser le choix à un club ou à ceux qui sont proches de décider ou pas s'ils veulent y aller, et à ce moment, on les accompagne dans ce déplacement. Mais c'est rare qu'on puisse organiser le déplacement comme on l'avait fait une fois à 3, je crois. On avait organisé le dernier déplacement, c'était à 3. Dans une petite anecdote, lorsqu'on était sur le point de revenir en Martinique, c'est l'époque où il y a eu le nuage de cendres, en Norvège, je crois.
Ouais.
Et on a été bloqué par l'avion.
Et, en Islande.
On a été bloqué à l'aéroport et on n'a pas pu rentrer.
Ouais. Je crois que c'est en Islande.
Donc, on avait tout rendu.
Le nuage, je crois que le nuage dont tu parles, c'est
l'Islande. Le
nuage dont tu parles, c'était l'Islande. C'est le volcan.
On est resté bloqué 2 ou 3 jours en plus avec les gamins à l'aéroport. C'était un peu folklorique sur le retour, mais bon, c'était un déplacement d'obligation avec pas mal de rebondissements. Et après, on a tiré des leçons de pas mal de trucs. Donc, c'était plus facile de laisser la gestion de l'organisation du déplacement au niveau scolaire, au niveau du championnat jeune, au niveau des clubs. Même si on les accompagnait financièrement, que gérer un tout, alors qu'on a plein d'incertitudes au niveau de l'école, au niveau de tout ça. Donc ils sont qualifiés pour le championnat de France. S'ils ne peuvent pas y aller, cette année, on leur a proposé un échange, s'ils ne peuvent pas y aller en avril, de les envoyer, de les accompagner sur le championnat en août. Donc au niveau des jeunes, justement, on a réussi ça. On a eu un jeune champion l'an dernier qui n'a pas pu aller au championnat de France jeune. On a proposé d'aller au championnat de l'année dernière, c'était à Nancy.
Oui.
Et d'ailleurs, donc, il y avait juste ce tournoi. Moi, je devais enchaîner Nancy et Dieppe. Et ils ont dit, oui, mais enfin, ils étaient plus jeunes, ils ont dit, moi aussi, je veux faire Nancy et Dieppe. Donc, du coup, on a fait Nancy, on a fait Dieppe. Et on a un, il n'a plus les mêmes buissons qu'on n'a pas cité. Il a gagné l'Open C à Nancy, donc champion de France à l'Open C.
Oui.
Et il a enchaîné aussi au tournoi de Dieppe, puis il a gagné l'Open B, donc il y a eu deux titres,
ah oui,
deux victoires en Open, tout sur coup.
Ah, mais c'est bien.
D'ailleurs, il est rentré, il s'est qualifié cette année pour le championnat fermé. Donc, il était deux jeunes joueurs Martin qui a fait partie du championnat fermé. Mm-hmm. Donc, c'est un mec, la fortune, le joueur promoteur de la Ligue, il a 14 ans, qui a fait le tournoi fermé, il a 1832. Et Lionel Buisson, ils ont fait le tournoi fermé, d'ailleurs, ils ont encore gagné leur participation au championnat de France.
Donc, il s'appelle ce
petit. C'est un prometteur qui vient jouer et qu'on aide à se déplacer vers un carré en France.
Ouais.
Et le résultat prouve que c'est la bonne stratégie, donc leur donner à boire et à manger pour qu'ils puissent s'aider.
D'accord, je vois donc Lionel Buisson, donc un petit jeune prometteur, hein, là, tu viens de me dire qu'il vient de gagner deux Open.
Voilà.
Hein. Et qui, ouais. Qui est donc à 1700.
Et puis il y a donc la fortune qui, ben, pareil, qui a fait Capelle la Grande, qui a fait Cannes cette année.
Ouais.
Donc on l'a aidé à aller au tournoi de Cannes, il a gagné un truc comme 60 points élevés. Voilà, enfin, ces périodes-là, la Ligue du Toile doit les suivre, en fait.
Ouais.
Et on en a d'autres, mais ces deux-là sont un peu l'exception.
D'accord, donc des petits jeunes qui sont la relève, hein, des échecs martiniquais et qui sans doute
et
atteindront.
Coup, à nous entraîner un peu plus, parce que on va faire des tâches bientôt. C'est ce qu'on espère, de toute façon.
D'accord. Donc des échecs et des joueurs d'échecs de Martinique qu'il faut surveiller de près. Attention aux hommes qui viennent du soleil, c'est pas les moins dangereux. Hein. Ils sont. Apparemment, ils ont les dents longues, les petits, là. Donc, il faut suivre ça. Donc, ça se développe bien. Mais écoute, on est ravis, hein, d'avoir passé cette émission avec toi. Est-ce que, peut-être un dernier mot, est-ce qu'il y a eu des jeunes martiniquais qui ont gagné un titre de champion de France chez les jeunes ?
Non, chez les jeunes, non. Le meilleur score qu'on ait fait, d'ailleurs, c'est Nick Lafortune. Il y a fait 7e, je crois, il y a 2 ans. Puis l'année où il y a eu le jeune Fahim qui a été champion, donc c'est dans le même tournoi, il a fait 7e au championnat de France, donc c'est pas passé loin.
Pas encore.
On doit travailler encore dessus, mais je pense que là, l'engouement qu'il y a eu par ces championnats fermés et puis par le niveau général, ça devrait pas tarder.
Mais il faut espérer, en tout cas. Bon, faut être patient, hein, parce que c'est des histoires de longue haleine, ça.
Non, mais ça progresse, et puis ça, ouais. On travaille dans l'aile, donc maintenant il faut qu'on trouve déjà les finances pour les aider à participer à tous les tournois auxquels ils souhaitent participer. Donc ça, c'est notre plus gros souci. Mais sinon, bon, on crée d'activité de l'île, faut qu'on exploite un peu plus notre côté, plage et tout ça, parce qu'on a de quoi faire.
Ben oui.
Et puis, pour ceux qui veulent de métropole venir, on va essayer d'enrichir le calendrier au niveau des Open et des autres tournois. Et donc, faire des tournois un peu plus réguliers pour que ceux qui veulent venir de métropole, même qui recherchent des fois des hébergements économiques, il y en a plein qui veulent des formules chez l'habitant. Enfin, il y en a plein aussi qui peuvent proposer d'accueillir des joueurs de métropole, hein, pour des tournois, pour des stages, des choses comme ça. Donc, surveiller le calendrier, surveiller les zones de vacances. Et puis, n'hésitez pas à prendre un billet d'avion, venez jouer à Martinique.
Ah, bah écoute, je crois que tu nous as donné envie. Hein. Moi, il va falloir que je demande. donc, évidemment, ça nous a donné.
Tu vas voir le site, on va essayer de mettre tout à jour et puis annoncer
ouais.
Tout le plus tôt possible.
Ah, faut pas hésiter à mettre des photos, les photos aussi de la Martinique sur le site aussi. Parce que. Là, bon, on voit les joueurs avec des coupes, bon, c'est bien, mais c'est vrai qu'il faut mettre en avant peut-être les magnifiques plages de la Martinique et le soleil surtout.
Voilà.
Et donc, oui, ça nous a donné envie. Donc,
en plus du site, on essaie de mettre la page Facebook à jour. Enfin, on a pas mal de photos sur la page Facebook.
Ouais.
Bon, après, sur le lien, on pourra faire un comme avantage.
Alors, si vous avez une page Facebook, il faudrait peut-être la mettre sur votre site internet, parce que je la vois pas. Ouais. Donc, effectivement.
Alors, quand je parlais de mise à jour tout à l'heure, il y a tout un travail maintenant qu'on va faire par rapport à la communication, les communications et tout ça. Donc, on a un gros travail, ça fait la ligue. La première année que j'ai faite en tant que président de ligue, c'était bon, parce que je suis au fond, là, sur le terrain. Maintenant, j'ai fait le tour, je vois un peu mieux, donc je vais un peu plus partager, plus communiquer quoi là-dessus, et puis on va affiner un peu tout ce qu'on peut affiner quoi pour faire monter un peu en termes de jeu et puis en termes de savoir-faire aussi.
D'accord, ben super. Écoute, merci hein, Gilles, vraiment pour ce petit tour hein, de la Martinique, de la Ligue d'échecs de Martinique, comme on le voit. Bon, ben une ligue très dynamique, hein, avec donc un joueur à sa tête, président, c'est toi, Gilles, donc qui en plus est un bon joueur, qui a fait, comme tu l'as rappelé, des centaines d'Open déjà, et donc 7 titres de champion de Martinique, et puis donc un Open international où les grands maîtres viennent, Christian Bauer est venu, Yannick Pelletier, Mathieu Cornette, voilà, des très, très grands joueurs qui viennent en Martinique aussi, parce qu'évidemment la Martinique, eh bien, ça fait rêver, et puis c'est donc aussi maintenant des beaux tournois d'échecs internationaux. Et puis on l'a vu aussi, une belle activité chez les féminines, avec des tournois jusqu'à 150 joueuses. Je crois qu'il y a plus d'un président de ligue qui va écouter ça avec jalousie, parce que ça m'étonne encore, c'est vraiment un très très beau résultat, donc ça veut dire qu'il y a une vraie politique générale et que ça marche bien. Et voilà, donc je crois que ça va donner envie aux joueurs d'échecs d'aller aussi profiter en même temps, des régions françaises aussi qui sont comme ça. On a des belles régions hein, au bord de l'eau. il faut pas l'oublier, et on peut y aller même en hiver, puisque donc évidemment il fait chaud pareil.
J'ai beaucoup aimé Dieppe, j'ai fait le tournoi de Dieppe plusieurs fois. L'année dernière, pour la première fois, je me suis baigné dans la mer de Dieppe et j'ai adoré.
D'accord.
Donc,
ouais, exactement. Donc, il faut penser à la Martinique. Voilà. Merci beaucoup, Gilles Suez, Panama, avec nous donc sur ce Fréquence Diagonale. Et puis, donc, merci de nous avoir suivis. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine destination plus tard de Fréquence Diagonale, ou peut-être rendez-vous avec un joueur, mais plutôt aller voir une nouvelle ligue. On verra ça lors du prochain épisode. Merci de nous suivre sur Fréquence Diagonale. N'hésitez pas à publier Fréquence Diagonale si vous voulez le faire. Évidemment, c'est sous licence libre. Tout comme la musique de notre générique qui va venir maintenant, Broken Embraces, une musique libre qui nous accompagne depuis le début de cette émission. Merci, au revoir, à bientôt.